France Inter.
Et oui, donc, au sommaire de notre club cet après-midi, des portraits de femmes qui ont été aux avant-postes de l'écologie et de la science. Il sera d'abord question de Françoise Daubonne, féministe radicale, militante visionnaire de l'environnement. Nous ferons aussi connaissance avec des chercheuses qui ont brillé dans la diffusion et la construction des connaissances scientifiques. Et puis enfin, nous irons sur les traces de l'exploratrice et féministe Alexandra David-Nel, décédée à l'âge de 101 ans en 1969. Et pour évoquer toutes ces personnalités, nous sommes avec les autrices et scientifiques Élise Thiébaud, Annabelle Crémer-Lecointre et Laure Dominique Agnel. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
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 Et bienvenue. Et bonjour Camille Cronier.
Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde est prêt à nous envoyer des questions, des messages, comme d'habitude, sur l'application France Inter et également sur les pages Facebook et Twitter de la Terre au Carré, sur Instagram également. Et puis vendredi, c'est quoi? C'est Olma. Donc on écoutera un extrait du podcast et nous donnerons bien sûr le nom des deux gagnants de la semaine du concours de dessin.
Et voilà donc le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Chantal Le Montagnier, Lucie Sarfati et Anna Massardier, avec à la technique Henri Bérec.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. France Inter.
Allez, avec un premier tour de table pour faire connaissance avec nos invités. Élise Thiébaud, on commencera avec vous tout à l'heure. Vous êtes journaliste et autrice, donc, et vous publiez aux éditions Charleston L'Amazone verte, le roman de Françoise Daubonne, enfant prodige, militante anticolonialiste, féministe, écologiste avant l'heure, poseuse de bombes aussi à 16 heures. Françoise Daubonne, c'est une pionnière oubliée de l'écoféminisme.
Elle est complètement oubliée. Ouais. La plupart des personnes avec qui j'en parlais, même dans le milieu féministe, une espèce de brume flotte autour de son nom. Elle a été mise de côté. Il y a plusieurs raisons pour cela. Mais la première, c'est que sa vie entière est un scandale, qu'elle était une franche tireuse, qu'elle n'appartenait à aucun sérail. Et que par conséquent, ce qu'elle a fait, c'est une vie héroïque. Mais solitaire.
Ouais, on y reviendra avec vous, d'autant que c'est assez étonnant à l'image de tout ce qu'elle a écrit également pendant sa vie. Annabelle Crémer-Lecointre, vous publiez Femmes de science à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui aux éditions de La Martinière. Alors c'est sous la forme d'entretiens composés. Vous avez donc à la fois rencontré Irène Joliot-Curie, la marquise du Châtelet, et Diane Fossé.
Et oui, c'était très intéressant finalement de prendre une machine à remonter le temps pour rencontrer ces femmes du passé. En fait, j'avais pas envie de faire de différence entre les chercheuses d'aujourd'hui que j'ai effectivement interviewées et puis ces grandes dames du passé. Je voulais qu'il y ait une trame commune. Donc finalement, l'interview s'est imposée aussi.
Ouais, et je vous envie beaucoup d'avoir fait l'interview d'Irène Joliot-Curie en particulier, mais c'est une très bonne idée, on va en parler tout à l'heure avec vous. Et puis enfin, Laure Dominique Agnel, les éditions Taillandier publient dans la collection Texto votre biographie de l'exploratrice et féministe Alexandra David-Nel. Alors là encore, c'est un destin, on le verra, hors du commun que vous nous livrez et qui illustre vraiment pleinement ce à quoi peut ressembler une vie libre.
Oui, bonjour, une vie libre, une vie de féministe, une vie d'écologiste, une vie d'aventurière. Les multiples vies d'Alexandra David-Nel sur une centaine d'années d'existence sont passionnantes. Oui.
Et on en parlera évidemment avec vous dans la troisième partie et vous répondrez aux messages des auditeurs. C'est le club de la Terre au Carré. Bon vendredi avec nous. Voilà, ça aussi c'est un hymne. Respect Aretha Franklin pour ce club.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Vous avez toujours été en avance, Françoise Debonne. En 68, déjà, vous fondez le groupe Écologie Féminisme. Je veux dire que...
Non, pas en 68, beaucoup plus tard. En 73.
Ah bon, alors c'est beaucoup plus tard. En 68, j'aurais dit bravo. 73, vous êtes déjà dans le courant de la mode.
C'est ça. De la mode, pas encore, mais des idées nouvelles qui pointent, oui. À l'époque, l'écologie n'était pas encore une mode.
Voilà, Françoise Debonne au micro de Jacques Chancel, Radioscopie. C'était le 10 mai 1977 sur France Inter. Il faut réécouter l'émission en intégralité parce que ça reflète vraiment toute la personnalité de Françoise Debonne, Élise Thiébaud. Vous qui êtes donc l'autrice de cet ouvrage, L'Amazone verte, le roman de Françoise Debonne chez Charleston. Je voudrais quand même rappeler que vous avez aussi signé ce livre en 2017 à La Découverte, Ceci est mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font. En 2017, on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission. Alors cette vie de Françoise Debonne, elle ressemble vraiment à un roman. Ça c'est évidemment la raison pour laquelle vous avez mis ce sous-titre. Tellement elle a été dense, tellement elle s'est exprimée aussi sur différents fronts. Pourquoi justement est-ce que vous écrivez que vous êtes lancé dans une drôle d'aventure, vous, en écrivant cette biographie romancée, hein, c'est le style que vous avez choisi aussi?
Alors, c'est plus mise en scène ou narré que universitaire. C'était dans ce sens-là. C'est plus une biographie subjective dans laquelle j'essaye d'entrer en dialogue avec elle en m'interrogeant sur mais pourquoi on a oublié une personne qui a été si visionnaire, qui a eu une pensée si révolutionnaire et si novatrice pour son temps, qui incarne vraiment... l'histoire aussi de son temps, qui commence avec la résistance, la rencontre de Simone de Beauvoir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1949, elle lit Le Deuxième Sexe, elle écrit à Simone de Beauvoir « Vous êtes un génie, vous nous avez toutes vengées ». Et elle écrit elle-même son premier essai féministe en 1951. On n'a pas idée, qui s'appelle Le Complexe de Diane, et on n'a pas idée de ce que c'était puissant pour cette époque et novateur. Ensuite, elle rejoint les luttes anticolonialistes auprès du FLN. Ensuite, elle est communiste. Ouais. Puis, elle quitte le Parti communiste. Puis, elle fait mai 68. Enfin, c'est une...
Elle signe le manifeste des 343, enfin, entre autres, hein, parce qu'il y a eu tellement de choses.
Oui. Elle signe le manifeste pour l'insoumission d'abord, des 121 contre la guerre d'Algérie. Et ensuite, le manifeste des 343, effectivement, pour l'avortement. Puis, elle est cofondatrice du MLF. Elle est cofondatrice du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Alors qu'elle-même ne se revendiquait pas comme homosexuelle, ce qui est déjà une position particulièrement intéressante, elle disait les homosexuels, et c'est, ça aussi c'était fou, les homosexuels n'ont pas vocation à s'intégrer à la société, nous avons vocation tous à désintégrer.
Là, vous décrivez la personnalité d'une féministe, si on doit le dire aujourd'hui. Qu'est-ce que vient faire l'écoféminisme là-dedans, la place de l'écologie d'ailleurs dont on entendait parler dans l'extrait sonore?
Alors ça arrive effectivement, comme elle l'explique, vers 73-74, elle écrit un essai à la suite du phare du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Elle écrit un essai qui s'appelle « Le féminisme ou la mort », qui est une référence à un livre de René Dumont qui s'appelait « L'utopie ou la mort », et dans lequel, pour la première fois, elle fait un lien entre l'écologie et l'oppression des femmes. Enfin, plutôt, dans le patriarcat, elle dit opprimer les femmes et polluer, comme ça se passe aujourd'hui.
Dominer la nature.
Et dominer la nature, exactement. Ça a pour effet de faire système. Et que la chose... On disait à l'époque, c'est que si le socialisme advient, la question des femmes sera résolue, ou qu'on pouvait tout régler par la science ou l'industrie. Elle dit, non, en fait, on se trompe complètement. C'est un système de pouvoir.
Donc c'est ça l'écoféminisme, finalement, c'est le pouvoir de l'homme, dans un sens le genre et dans un autre sens l'espèce, sur la nature ou sur la femme,
exactement,
ou sur la société.
Exactement. Et elle va le développer de plein de manières. Elle va écrire un livre très intéressant qui s'appelle « Les femmes avant le patriarcat », dans lequel elle s'interroge et elle dit « Si ça se trouve, le patriarcat qu'on croit universel n'a pas toujours existé. » Et il y a... elle est une des premières à aller essayer d'explorer d'autres formes d'organisation sociale qui sont fondées sur la coopération ou dont le féminin au sens large est le centre et non pas le sommet. C'est-à-dire, elle ne dit pas qu'il y a eu un matriarcat, un pouvoir des femmes, mais une forme d'organisation dans laquelle c'est la vie et la diversité qui sont au centre, et non pas le pouvoir et la domination.
Et alors
que ça, ça arrive qu'avec le patriarcat.
C'est vraiment elle qui a inventé ces mots phallocrate, écoféminisme justement, et sexocide.
Absolument. Ouais. Le mot, le dernier, sexocide, elle le forge en 1999 dans un petit livre qui s'appelle Le sexocide des sorcières.
Ça veut dire
là
quoi
aussi, le sexocide, c'est le même sens que féminicide. C'est-à-dire le fait de tuer des femmes de manière systématique avec une intention de domination ou d'annihilation. Hein. Ça, c'est le lien avec génocide. Et à l'époque, elle est aussi visionnaire hein, par rapport à ce qu'on a pu dire sur les sorcières, notamment grâce au livre de Mona Chollet, « Sorcières, la puissance invaincue des femmes ». Elle est déjà, à l'époque, consciente, et elle le formalise, que c'est une haine spécifique des femmes et systémique qui a conduit à la chasse aux sorcières, et que ça fait partie d'un tribut de l'humanité sur lequel on doit avancer.
Alors, Élise Thiébaut, justement, ces années 70 en particulier, hein, vous parlez de René Dumont, alors c'est aussi ce moment où le mot d'apocalypse hein, tourne beaucoup dans la société. Il y a évidemment la lutte contre le nucléaire, contre l'atome, et d'ailleurs, Françoise Dobon s'illustre en allant poser deux bombes dans la centrale de Fessenheim, qui est en construction à ce moment-là, et on va connaître son nom beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard. Hein.
Oui, on l'a véritablement rendu public, ça, c'est Caroline Goldblum dans son livre Françoise Dobon et l'écoféminisme qui est paru au Passager clandestin qui révèle ça après avoir...
En 2008, hein, c'est ça
Non, elle l'a révélé, elle, l'année dernière. Le livre, il est paru l'an dernier.
Oui, c'est ça, c'est plus...
C'est beaucoup plus récent. Ouais. Elle l'a compris parce qu'elle a consulté toutes les archives de Françoise Dobon et qu'elle a remis les choses dans l'ordre.
Et on n'a jamais réussi à savoir que c'était elle qui était allée poser donc deux bombes qui ont explosé en plus. Dans
les
la
deux
centrale.
Bombes ont explosé, effectivement. Alors, c'est d'autant plus étrange qu'elle était fichée au RG, Françoise Dobon. Elle faisait partie des milieux radicaux, gauchistes, très engagés. Elle était un soutien quasiment officiel aux terroristes, par exemple, de la RAF, femme. Elle avait une fascination pour les Amazones, pour les guerrières, pour cette violence féminine. C'est un truc très particulier chez elle.
Ça lui vient d'où, on sait ?
Je ne peux pas dire ce qui fait que...
Elle n'en a jamais parlé ou écrit là-dessus, par exemple ?
Si, elle écrit très souvent elle a écrit un livre, par exemple, qui s'appelle « Je ne suis pas née pour mourir », qui est un très beau titre, qui est un roman qui raconte l'histoire d'une Amazone qui boit un filtre d'immortalité 500 ans avant Jésus-Christ et qui traverse jusqu'à mai 68 tout... Voilà, 3 siècles, plus ou moins. Oh non, 20 siècles, que dis-je. Et... Elle avait une fascination que je partage pour la figure des Amazones, pour cette idée qu'il y avait une puissance intrinsèque des femmes et qu'elles n'étaient pas comme les stéréotypes nous le montrent aujourd'hui, dans une position obligatoirement de douceur. Et c'est très intéressant, cette manière de penser un féminin qui est beaucoup plus... Qui prend en compte la possibilité d'être, avoir une position de pouvoir et une position de force physique.
Ben justement, sur sa vocation pour le féminisme, elle en parlait aussi au micro de Jacques Chancel en mai 1977. On écoute la voix à nouveau de Françoise Dobon.
J'ai été féministe depuis toujours parce que ma mère était une féministe de la première génération des féministes. Elle était étudiante en sciences à la Sorbonne et elle avait des difficultés parfois pour s'y faire une place parce que les étudiants essayaient d'empêcher les femmes de s'asseoir et de suivre les cours. J'avais 11 ans que déjà j'écrivais, je gribouillais des histoires féministes et même c'est assez amusant, des histoires d'anticipation. Il y avait des voyages sur d'autres planètes. Je faisais déjà de la science-fiction avant que la science-fiction existe. Et ça, c'est le côté anecdotique. Mais ensuite, pour ce qui est de mes deux mariages, j'étais enceinte. Il n'était pas question non plus que je puisse avoir un enfant sans être mariée. Toulouse, province,
l'environnement,
etc., etc. Donc, j'ai fait la chose suivante. Je l'ai épousée pour la forme, parce qu'il fallait le faire, et je l'ai quittée le jour même, sur les marches de la mairie.
Ah ouais. Ben voilà, au moins c'est efficace. Hein. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a eu des enfants.
Elle a eu deux enfants, oui.
Qu'elle n'a pas désiré véritablement.
À aucun d'eux, elle dit que les enfants lui ont été imposés, ce qui n'a pas empêché qu'elle a été traversée et fascinée par l'expérience physique et psychique de la maternité, le fait de porter un enfant, de le mettre au monde, de l'allaiter. L'expérience même d'avoir des enfants oui. était quelque chose qui la fascinait. Néanmoins, elle considérait que ce destin ne convenait pas à ce qu'elle était, et donc elle a décidé d'être un père. Mmh. Elle n'a pas abandonné ses enfants ont été élevés dans sa famille.
Ce sont des filles ou garçons, vous savez ?
Elle a eu une fille et un garçon.
D'accord. Qu'elle a élevé donc ?
Qu'elle n'a pas élevé, elle ne les a pas élevés, elle les a confiés à sa famille, et ils ont été élevés dans sa famille, chez ses parents et ses sœurs.
Pour revenir à sa famille, justement, donc sa mère, et ça va vous intéresser, Annabella Crémer-Lecointre, sa mère était mathématicienne et élève de Marie Curie. Alors, ça, c'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous le saviez, Annabella Crémer-Lecointre.
Il s'agissait de Marguerite Perret, sa mère, je ne sais pas qui était sa mère, je ne la connaissais pas.
Non, ce n'est pas Marguerite Perret. Elle était une étudiante de Marie Curie, son nom était...
En tout cas, elle a dû renoncer quasiment à ses études de sciences parce que les hommes la poussaient aussi à ne pas le faire, quoi. Donc c'était une carrière qui n'a pas pu s'exprimer en raison, précisément, aussi de ses cinq enfants, parce qu'elle avait cinq enfants, la mère de Françoise d'Aubonne. On retrouvera le nom tout à l'heure, si vous souhaitez nous le donner. La question de la violence physique, ça aussi, c'était extrêmement important dans son travail et dans ce qu'elle a écrit. On rappelle quand même, elle a écrit combien de livres ? Près d'une
centaine ?
Elle a
écrit une centaine de livres, ouais. Des romans, des biographies, des essais, des livres pour enfants, des livres de science-fiction, dont un assez extraordinaire qui s'appelle « Les bergères de l'Apocalypse ». Qui raconte une guerre des sexes et une utopie féministe. C'est un livre assez fascinant. Donc oui, elle a écrit énormément de livres.
Et sur la violence, donc ça, alors, c'était vraiment violence, quelque chose qui a été central aussi dans ce travail.
Alors la violence, je pense que d'abord ce qu'elle exprime et ce qu'elle incarne, c'est la violence subie parce qu'on est une femme, dont elle a conscience, elle l'explique très bien, à cause de sa mère. Et elle refuse d'adopter le destin de sa mère. Et évidemment, à cette époque, c'est tellement inconcevable de vivre comme elle a vécu et comme elle voulait vivre, c'est-à-dire entièrement dévouée à l'écriture et à changer le monde. Et ça, c'est très clair dans sa tête quand elle a 10 ans et qu'elle écrit ses premières épopées. C'était tellement inconcevable qu'évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions, la violence était très présente. Dans les relations interpersonnelles, elle a vécu des relations amoureuses d'une violence inouïe. Plusieurs de ses amants ont essayé même de la tuer. On lui refusait globalement, de toute façon, la société et les violences sexuelles et sexistes étaient beaucoup plus tolérées et considérées comme normales. Et elle, évidemment, avait mis en œuvre, d'une certaine façon, une contre-violence. À titre personnel, et elle pensait qu'il était légitime d'exercer cette contre-violence pour se défendre. De la même manière qu'elle pensait qu'il fallait exercer une contre-violence à celle de l'État qui nous imposait des centrales nucléaires.
Mais alors justement, est-ce que ce combat, le féminisme, etc., est-ce que tout cela, et le personnage qu'elle est, justifie la violence qu'elle a pu employer, elle, finalement, voire l'excuse ?
L'explique. Je dirais, après, il ne m'appartient pas de juger ce qui est légitime dans cette violence. Je pense qu'elle avait sa logique. Par ailleurs, elle a tué personne.
Elle a posé des bombes, quand même.
Non, mais elle a posé des bombes. Elle a fait. C'est pas du terrorisme au sens où l'idée, c'est pas de terroriser quand on met une bombe dans un lieu public avec une intention de tuer ou de blesser. Ils ont pris des précautions absolument extraordinaires. Pour qu'il n'y ait personne, ils ont téléphoné avant en disant il va y avoir une bombe dans une demi-heure à tel endroit, etc. Bon, et le but c'est plutôt du sabotage, c'est plutôt interrompre le chantier. Leur idée c'était d'interrompre le chantier, d'envoyer un message à l'État et de conscientiser, enfin voilà, d'attirer l'attention sur cette question. Il n'a jamais été question. Par contre, ça voulait dire un courage physique. Donc, il y a une forme de violence là-dedans.
Élise Thiébaud, elle serait aujourd'hui inclusive, queer, intersectionnelle, c'est ce que vous écrivez aussi, pour se projeter ?
Sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute, puisqu'elle l'était déjà 40 ans plus tôt. Et que la façon dont elle parle de féminisme, du genre, avec la crudité qu'elle utilise dans certains de ses romans, comme « Je voulais être une femme », qui m'a fait, par exemple, penser beaucoup à Virginie Despentes, par la façon de dire... d'exister sans, sans chichi, quoi, sans concession, est évidemment totalement en résonance avec ce qu'est le féminisme aujourd'hui, avec ceci en plus, qui est que vraiment elle avait une façon de prendre le corps en compte, ce qui est vraiment une des caractéristiques, je trouve, du féminisme aujourd'hui.
Bah, elle avait assez mauvaise réputation. Hein. Vous dites que c'est une râleuse qui s'habillait très mal, elle s'en foutait complètement, la cigarette toujours à la bouche, et voilà, elle, et un caractère de cochon quand même. Hein.
Bon, je ne l'ai pas connue, mais elle avait un caractère difficile, ouais. Effectivement. En tout cas, elle était sans concession, elle était forte en gueule. Elle était, comme sont certaines, souvent d'abord des génies, c'est-à-dire qu'elle était très impatiente. C'est un génie, c'est-à-dire qu'elle était considérée comme une enfant prodige. Quand on écrit un roman entier à l'âge de 9 ans, on est évidemment du registre du génie. Elle était décalée, toujours très impatiente. Et elle avait du mal je pense qu'elle n'avait pas beaucoup de talent dans les relations humaines.
En tout cas, on voit toute sa modernité hein, aujourd'hui et la façon dont elle parle effectivement de ces notions de féminisme et d'écologie qui sont ultra modernes parce que c'est vraiment au centre des discussions et des débats aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs signé un texte dans cette revue dont vous êtes aussi à l'origine. La Déferlante, c'est le numéro 1, c'est un trimestriel, ça se vend en librairie et il y a donc plusieurs pages sur Françoise Daubonne. Et on est très heureux parce que ça marche très très bien apparemment. Vous êtes en train de rééditer cette revue dont le premier numéro donc, vient de paraître. On a mis les liens également sur le site de La Terre au Carré, et puis donc ce livre aux éditions Charleston, L'Amazone verte que vous signez, le roman de Françoise Daubonne et Lise Thibault, vous en êtes l'autrice.
France Inter. La Terre au Carré.
Allez, comme toutes les semaines, c'est le moment de nous arrêter un instant dans l'univers d'Olma, le podcast de science pour les plus jeunes. Et cette semaine, vous allez découvrir en ligne le 22e épisode, qui est sorti déjà la semaine dernière, consacré à la communication des cétacés. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir et de revenir en arrière à la rencontre de l'astrophysicienne Nathalie Palanque-Delabrouille, qui évoquait l'histoire de l'univers dans l'épisode 9. On écoute un extrait de cet épisode, et juste après, Camille.
Eh bien, le nom des deux gagnants du concours Olma Dessin de la semaine, évidemment.
Il y a quelqu'un à la porte. Caméra interphone activée. Qui est là?
C'est le colonel von Spoons.
Oh non, pas encore lui.
Je viens offrir un bouquet de tulipes à Nathalie.
Merci, mais non merci.
Je veux voir Olma. C'est en ordre.
Ne nous laissons pas distraire. Reprenons.
Nathalie, est-ce qu'on peut imaginer comment l'univers va continuer à évoluer dans le futur?
C'est le travail de milliers de chercheurs. C'est la cosmologie, comprendre le cosmos et comprendre non seulement le passé, mais également le futur. Et oui, on peut deviner à travers le Big Bang comment l'univers va continuer à évoluer. On a vu qu'il était en expansion et donc l'univers va continuer à grossir. Si on a vu qu'au début, lorsqu'il était tout petit, il était aussi très chaud, à l'inverse, dans le futur, comme il va être de plus en plus grand, il va également devenir de plus en plus froid.
Voilà, c'est un extrait de l'épisode 9 du podcast Olma, qui vous propose donc déjà 22 épisodes à télécharger gratuitement sur franceinter.fr. Et c'est le moment, Camille, de révéler le nom des deux gagnants du concours Olma Dessin.
Attention, roulement de tambour. Cette semaine, il s'agit de Élise, 7 ans, et Jeanne, 8 ans. Elles ont été choisies par le jury impitoyable de France Inter et de la Cité des Sciences. Et donc, elles remportent, Élise et Jeanne, les cadeaux France Inter et de la Cité des Sciences grâce à leurs deux jolis dessins que vous pouvez évidemment aller voir sur les réseaux sociaux, les pages de La Terre au Carré, et en particulier dans la story de notre compte Instagram et la story de notre page Facebook.
Voilà, vous pouvez continuer, comme chaque semaine d'ailleurs, à nous adresser vos dessins sur le hashtag olmadessin ou sur l'adresse olmadessin@radiofrance.com. Deux autres gagnants seront désignés la semaine prochaine. Dans un instant, femme de science, on ira à la rencontre de chercheuses d'hier et d'aujourd'hui.
Je suis dans la vie comme dans mes rêves, et quand je crève, je suis le cri de qui me croit, qui me prie. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang, et je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu, mais vu que je suis à nu, plus personne avec qui ruminer mes envies et vivre sans avoir l'air cher comme un courant d'air. Derrière la vie, mon frère pleure de me voir si triste. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve, ou ma folie, folie. Les gens rêvent, et puis oublient. Je suis dans la vie comme dans mes rêves. sans trêve. Je voudrais que crèvent tous les artifices pacifistes. Je n'en suis pas moins en colère. J'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre. Je rêve que les rues d'Hollywood se fendent en deux, les stars au coude à coude et les pauvres au milieu. Plus rien sur la montagne, désespoir démenti, plus rien que la complainte pathétique des nantis. Je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes, les visages émaciés qui s'en vont vers les tombes, les fantômes obscurs des rues sans objectif, les rêves à la chaîne d'un beau pays fasciste. Il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir. Je veux dans le noir y croire, toujours y croire. Même les chiens n'en peuvent plus d'obéir à leur maître. Je ne serai jamais à eux. Ce matin, il fait beau et je signe avec mes doigts. Le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi. Et toi, nous irons danser comme tous les samedis. Je ne pense qu'à rêver que les étoiles oublient. Quand les cœurs et les corps sont au même BPM, je m'oublie et puis j'oserai te dire que je t'aime. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve où ma folie, folie. Les gens rêvent et puis oublient.
Des rêves, c'était PR2B et Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Terre au Carré.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Je suis Frédéric Pelcy, je suis chercheur en génétique, directeur de recherche à l'INRA. Il va y avoir un thème phare autour des femmes et la science pour montrer en quoi les femmes en recherche peuvent être d'excellentes chercheuses et qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance aux femmes pour faire avancer la recherche.
Voilà, c'était la voix de Frédéric Pelcy, une généticienne qui ne renonce à rien. C'est ce que vous dites dans votre livre, Annabelle Crémer-Lecointre, vous qui êtes enseignante agrégée en sciences de la vie et de la Terre dans une commune alsacienne. Donc voilà, j'ai pas voulu le dire parce que c'est imprononçable pour moi, en 17 lettres, donc je vous laisse donner le nom de votre commune.
Oui, je suis enseignante à Souffal-Weyersheim et j'habite à Trüchtersheim.
Ah, wow, voilà. Pas mal. Vous publiez donc Femmes de science à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui aux éditions de La Martinière. Donc effectivement, Frédéric Pelcy fait partie de ces chercheuses, une généticienne qui ne renonce à rien. Comme vous le rappelez, l'histoire des sciences est remplie de noms masculins et pourtant, bah, évidemment, de tout temps, il y a eu des femmes qui ont brillé dans la diffusion et la construction des connaissances scientifiques. C'était une façon de les faire sortir de l'ombre pour vous d'écrire cet ouvrage ?
Bah oui, tout à fait. Et puis en plus, je suis ravie d'avoir entendu Frédéric Pelcy parce que c'est une femme que j'estime énormément et que je connais à titre personnel. Et justement, quand je dis qu'elle renonce à rien, c'est que je voulais aussi montrer l'exemple de femmes qui peuvent à la fois avoir une vie familiale épanouie et une vie, une carrière professionnelle très très importante finalement, puisqu'elle a dirigé un centre de l'INRA. Et effectivement, à travers ce livre, moi, je voulais leur redonner la place qu'elles méritent dans l'histoire des sciences, parce que on a l'impression qu'elles n'existent pas, en fait. On les a écartées du récit. Et c'est vrai que quand je demande à mes élèves de me citer des femmes de science, bon, il n'y en a qu'une, hein, vous doutez bien, c'est Marie Curie.
Voilà.
Voilà.
Ouais.
Comment vous les avez choisies, ces femmes, dans votre livre ?
Alors, c'était au départ, je voulais qu'il y ait la moitié de femmes qui soient des femmes d'aujourd'hui et l'autre moitié des femmes du passé. Ça s'est un petit peu rééquilibré autrement. On a fait un petit peu plus. Ça, c'était des choix aussi qu'on a fait avec mon éditrice Chloé Samin, que je salue ici et que je remercie parce que j'ai vraiment adoré travailler avec elle. Et on a un petit peu rééquilibré. Alors, je les ai choisies aussi dans un premier temps par rapport aux archives documentaires dont je disposais, parce que des femmes, il y a beaucoup de femmes dont j'aurais voulu parler aussi, à commencer par Marie Tarpe, cette géologue qui, euh, qui a émis l'hypothèse qu'au cœur des dorsales océaniques, il y avait un rift et que c'est là que s'écartaient les plaques tectoniques. Et en fait, j'ai trouvé assez peu de choses sur elle et sur sa vie personnelle. Et j'avais besoin aussi de mettre un petit peu d'éléments de leur vie privée, parce que je trouvais que c'était une manière aussi de s'attacher à ces femmes, de construire l'interview, le dialogue autour de leur vie professionnelle, mais aussi de leur vie personnelle. Donc il y a des femmes où j'ai trouvé assez peu de choses. Et donc ça a déjà mis de côté un certain nombre d'entre elles. Et puis, tout simplement, voilà, il y en a 14. Au départ, il devait y en avoir un petit peu plus, mais le problème, c'est que quand je commence à écrire, j'écris souvent trop. Et donc, on a dû supprimer au final 3 portraits parce que ça rentrait plus.
En fait, ce sera pour le tome 2, voilà. Alors il y en aura peut-être un juste après.
Ouais. Hein, j'espère.
En tout cas, il y a eu quand même, on le sent dans ce que vous nous dites, il y a eu quand même une difficulté à trouver des femmes de science.
Alors, pas une difficulté à en trouver. La liste est vraiment très longue, elles sont nombreuses. En tout cas, quand on cherche un tout petit peu, on s'aperçoit qu'elles sont très nombreuses. Et je dirais même depuis l'Antiquité, même si à Paris Hypatie, on a très peu de traces sur ces femmes scientifiques dans l'Antiquité. Mais non, il y en a, en fait. Simplement, quand on veut trouver des éléments plus précis sur leur rapport à la science ou sur leur vie personnelle, ça commence à être difficile. En particulier pour des femmes, ailleurs qu'en Occident ou aux États-Unis. Et là, c'est vrai que c'était compliqué pour moi. J'aurais voulu qu'il y ait peut-être une plus grande diversité aussi. Mais j'avoue ma grande inculture sur la place des femmes dans l'histoire des sciences du monde arabe, par exemple, ou en Asie ou en Afrique. Hein. Voilà.
Alors, vous parliez d'Hypatie, ça c'est vraiment l'Antiquité. Alors, juste pour le plaisir d'introduire le sujet, on va écouter cette horrible bande-annonce de ce film de 2009 qui s'appelle Agora, et on commente juste après la vie, beaucoup plus intéressante, d'Hypatie.
Lors des derniers sursauts de l'Empire romain, dans une civilisation sur le déclin, une femme, légendaire, en avance sur son temps, se dressa pour unir l'humanité.
Quoi qu'il puisse arriver dans les rues, nous sommes frères. Où sont les légions de Rome ?
Aucune armée ne contiendra cette meute.
Toutes ces années d'études, si je pouvais seulement lever le voile.
Pourquoi écouterions-nous les recommandations d'une femme ?
Il suffit !
Mais si vous choisissez l'inaction, il continuera ses crimes encore et encore.
Bon, je vous avais prévu que c'était vraiment pas terrible. Hein, mais
c'est
bon.
Magique, vous rigolez ou quoi?
Annabelle Crémer-Lecointe. Bon, mais c'est quand même une façon de parler d'Hypatie à une époque, l'Antiquité, oui, où on a l'impression que seuls les hommes philosophes ou scientifiques ont eu voix au chapitre.
Oui, alors elle n'était quand même pas très nombreuse, mais elle, c'était une philosophe et mathématicienne renommée. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'elle a été assassinée par les chrétiens. Enfin, sa fin est absolument tragique, mais elle était vraiment très respectée. Et elle doit, en fait, l'ouverture de son école de philosophie et de mathématiques et d'astronomie à l'éducation que son père lui a donnée, puisqu'elle a, ce qui était assez inhabituel encore à l'époque. Mais il faut savoir quand même que dans l'Antiquité, notamment en Égypte et peut-être un peu chez les Grecs aussi, les femmes avaient un petit peu plus de place et de pouvoir qu'elles ne l'ont eu par la suite au Moyen-Âge, où là, c'est vraiment mille ans sombres qui s'ouvrent pour les femmes et d'ailleurs même pour la science. Ça, on pourrait en reparler aussi. Mais elle était très respectée quand même pour ce qu'elle faisait.
Annabelle Crémer, moi je voulais vous le coindre, pardon, je voulais vous demander, vous êtes professeure en quoi ? En lycée ?
Non, moi je suis professeure en collège, en sciences de la vie et de la
c'est
Terre.
C'est ça, parce que vous parliez tout à l'heure de vos élèves, je voulais savoir justement si parmi vos élèves et parmi les filles dans vos élèves au collège, il y avait des discours justement un peu de timidité, parce qu'on entend souvent que s'il y a peu de femmes dans la science et dans la recherche, c'est parce qu'il y a une forme de timidité. Est-ce que vous sentez des choses évoluer à ce niveau-là, ou est-ce qu'il y a encore comme ça vraiment un clivage entre les garçons qui vont faire de la science et les filles qui vont faire des études plus littéraires ?
Alors, sur le plan de la timidité, oui, ça peut se voir. Après, moi, j'enseigne à des niveaux où, enfin, ils n'aiment pas trop parler. Déjà, ils sont très centrés sur leur propre individualité. Donc, je pense que les garçons aussi ont du mal à parler. Après, j'ai moins de difficultés à faire parler les filles parce que, bon, déjà, mes élèves savent que je suis féministe. Donc, je pense que ça donne... Les filles ont confiance, elles prennent plus la parole. Au début de ma carrière, c'était parfois un petit peu difficile. Maintenant, des préjugés à aller vers les sciences, ben, je pense que malheureusement, c'est des clichés, hein, qu'on a, des stéréotypes qu'on intériorise aussi parfois malgré nous, parce qu'on rabâche aux filles qu'elles ne sont pas bonnes en maths. Et puis, il y a toujours eu ce mythe du sexe faible. Donc, il faut leur répéter régulièrement que les sciences, c'est pour tout le monde, que les filles sont aussi douées en mathématiques. D'ailleurs elles réussissent très bien en sciences.
Mais est-ce que du
sciences,
coup, vous sentez les choses évoluer ou pas encore, hein?
Elles évoluent, mais lentement, je trouve, parce qu'elles évoluent peut-être en collège, peut-être même en lycée, où elles vont assez volontiers dans les filières scientifiques, mais le problème, c'est après. Et ça, voilà, nul ne sait si ça va changer dans quelques années, mais pour l'instant, voilà, quand on regarde les chiffres en classe préparatoire aux grandes écoles, puis moi, j'ai fait ces classes préparatoires, je peux en parler, elles sont très peu nombreuses, 29% de filles, 27% seulement en école d'ingénieurs, donc oui, je pense que ça avance, mais encore assez lentement, malgré
Alors,
tout.
Alors, pourquoi Irène Joliot-Curie et pas Marie Curie, précisément, Annabelle Crémer-Lecointre?
Ah, mais ça a été une grande discussion aussi avec Chloé, mon éditrice, qui me disait, écoute, c'est vrai, tu as fait Irène, tu peux aussi faire Marie Curie dans l'ouvrage. Et je préférais laisser une place à une autre femme, parce que finalement, quand on regarde... Enfin, quand on lit l'interview d'Irène, elle parle beaucoup de sa maman. Et je trouvais chouette aussi de parler de la vie d'Irène, qui est souvent un peu éclipsée par sa mère, il faut bien le dire, qui est quand même une figure très intimidante aussi. Et on découvre à travers l'interview d'Irène la complicité remarquable qu'elle a avec sa maman, parce qu'elle a quand même travaillé 15 ans avec sa maman, qu'elle appelait ma chérie. Enfin, je trouve que c'est très beau. On voit Marie Curie sous un autre jour aussi, sous le rôle de maman, finalement. Et je trouve que cette complicité était belle à donner aussi.
D'ailleurs, le point commun entre tous les sujets dont nous parlons et toutes les personnalités qu'on évoque, c'est vraiment aussi l'écriture, hein, et les échanges de lettres, les courriers. C'est incroyable, parce que Marie Curie aussi, avec sa fille, échangeait énormément, hein.
Oui, elles échangeaient énormément. Même quand Marie Curie était sur le front de la guerre et que Irène terminait ses études. D'ailleurs, Irène suppliait sa mère de pouvoir la rejoindre sur le front de la guerre. Ce qu'elle va faire, hein, finalement, puisqu'elle va l'aider dans sa tâche de recherche de véhicules pour transporter des unités mobiles de radiologie. Donc, elle sera... Et puis, même quand son papa décédera, parce que Irène son père à l'âge, elle a 9 ans, et là il se passe un long moment où sa mère craque, et elle part chez des amis, elle confie ses enfants à d'autres amis, et elle continue d'échanger toutes les deux, et ce qui est très important pour Irène, en fait, ce qui l'a fait tenir, hein, ces éloignements de sa mère lui a terriblement sa mère lui manquait, en fait, et donc heureusement qu'il restait ses courriers, ses lettres entre elles.
Beaucoup de portraits, donc, enfin 14 en l'occurrence, Rosalind Franklin, Diane Fossey, la marquise du Châtelet, donc c'est à découvrir dans cet ouvrage Femmes de science, 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui, et c'est aux éditions de La Martinière. Et dans un instant, on terminera avec une autre très grande personnalité du voyage et du féminisme, c'est Alexandra David-Nel. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. When it comes like my oldest friend, have you got a friend? Your Head, c'était London Grammar.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Et je voulais que je suis quitté ma femme il y a 5 ans, parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans le bois de Vincennes. Voilà, je me suis sauvée. Et puis alors après ça, quand j'étais plus grande, eh bien, je me suis sauvée davantage, pour voir ce qu'il y avait plus loin.
Voilà, elle a voulu aller plus loin que le bois de Vincennes, et elle l'a très très bien fait, Alexandra David-Nel, notre invitée, notre dernière invitée du club, Lord Dominique Agnel, pour cette biographie qui la sort chez Texto, pour découvrir cette exploratrice et féministe. Vous êtes vous-même écrivaine, documentariste, autrice de ce livre, et vous avez même réalisé une série documentaire pour France Culture. Vous avez aussi fondé le festival Terre et Lettres en 2009, festival éco-citoyen autour des livres et des films qui traitent des questions écologiques. Alors, qui était ADN, Alexandra David-Nel?
Quel nom, ouais. ADN. Ben, ADN, en écoutant toute l'histoire des femmes dont on a parlé là depuis 14 heures, je me dis qu'elle a inspiré probablement toutes ces femmes, parce que elle était pionnière dans le féminisme, mais au 19e siècle, à la fin du 19e
qui
siècle.
Qui dit mieux.
Donc, j'imagine qu'elle a inspiré Françoise Daubonne en particulier. J'ai trouvé beaucoup de similitudes entre le travail d'Alexandra et celui de Françoise Daubonne. Mais donc, elle participe, Alexandra, au journal La Fronde. Je voudrais parler de ce journal, ouais, parce qu'on est en 1890.
Ouais. C'est un journal féministe,
fait uniquement par des femmes, et de la directrice jusqu'à la typographe, en passant par l'imprimerie, les journalistes. Et on ne parlait pas de mode ou de coiffure ou de maquillage dans La Fronde. On parlait d'égalité homme-femme, on parlait de contraception, on parlait du travail des femmes, de la défense du statut social des prostituées, de l'éducation pour tous. Parce qu'il faut dire aussi que les femmes avaient beaucoup de mal à la fin du 19e siècle à entrer à l'université, par exemple. Alors, on admire d'autant plus ces femmes scientifiques dont on a parlé à l'instant, que c'était vraiment très très difficile de poursuivre des études supérieures à la fin du 19e siècle. Et Alexandra a écrit énormément d'articles sous le nom d'Alexandra Myrial, d'ailleurs. Elle signe Alexandra David-Nel finalement quand elle rentre du Tibet, à près de 60 ans. Elle devient vraiment Alexandra David-Nel à ce moment-là. Mais elle commence son activité, sa vie, par le féminisme. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très important chez elle. Et quand on lit ces articles, on les trouve vraiment d'une actualité absolument incroyable. Ouais. Ils sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque Marguerite Durand, la fondatrice de La Fronde, à Paris. Au métro Tolbiac.
Vous savez, Laure Dominique Agnel, ça parle beaucoup à Alice Thiébaud, hein, ce que vous évoquez sur la revue, justement, La Fronde.
Oui, puisque quand on a décidé de lancer La Déferlante, on avait aussi le souvenir de ces grandes expériences médiatiques qui nous ont précédées, menées par des femmes, et en particulier La Fronde.
Et La Déferlante, oui. Ça s'inspire directement de ça, finalement. Camille.
Alors, question sur franceinter.fr. Juste des questions d'hommes, hein, je le précise. Patrice, qui nous pose la question de savoir, est-ce qu'on sait comment s'est orientée Alexandra David-Nel lors de ses voyages avec les étoiles, les boussoles et les cartes incertaines? Et a-t-on complété des cartes grâce à ses pérégrinations, Laure Dominique Agnel?
Alors oui, elle avait énormément de cartes, bien sûr. Elle avait une boussole. Les étoiles, je ne crois pas. Non, j'ai rien vu comme de ce genre dans ses écrits. Mais elle avait une très grande connaissance des cartes, une passion pour les cartes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que son mentor, l'homme qui l'a énormément inspiré dans ses choix et dans sa vie, c'est Élisée Reclus,
le
grand géographe, oui, qui a écrit La géographie universelle, qui était aussi un écologiste, et que Alexandra a rencontré à l'âge de 20 ans. Et ce personnage d'Élisée Reclus a marqué profondément ses choix de jeunesse. Et c'est lui aussi qui a préfacé le premier livre d'Alexandra, qui s'appelle « Pour la vie », qu'elle a écrit à 20 ans et qu'elle destine aux femmes. Et le premier mot de son premier livre, c'est « L'obéissance, c'est la mort ». Et là, vraiment, ça veut tout dire. C'est vraiment ce qui va guider toute sa vie, parce qu'elle n'obéira jamais à personne, bien sûr.
Et Élise Thiébaud fait super avec les deux pouces, parce qu'évidemment, c'est une formule qui fait mouche. Le couple, d'ailleurs, qu'elle a formé avec son mari pendant 40 ans, était vraiment celui d'un binôme très original, hein.
C'est totalement fascinant et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspirée pour la trame de mon livre, de ma biographie, parce que j'ai trouvé que dans les biographies précédentes, Philippe Nel était un peu oublié et j'ai voulu lui redonner sa juste place parce que c'est vraiment quelqu'un qui tient la main d'Alexandra, qui est un amer, comme disent les marins, c'est un point de repère, c'est vraiment un guide. Alors que c'est 40 ans de vie non commune, finalement, parce qu'ils se séparent très tôt, ils se marient en 1904, Alexandra a déjà 36 ans, et on peut se demander pourquoi elle décide de se marier à 36 ans, elle qui était à l'époque directrice de l'opéra de Tunis, je vous rappelle qu'elle a été cantatrice pendant 10 ans de sa vie. Pour gagner sa vie, justement, parce que c'était le seul moyen pour les femmes. Elle avait une très jolie voix de soprano et c'était le seul moyen, un des rares moyens de gagner sa vie et de voyager, d'être cantatrice. Et elle a voyagé comme ça dans toute l'Europe et même en Asie pour chanter Carmen, Manon, etc. Et donc, elle se marie avec Philippe à 36 ans, ce qui est étonnant parce que dans Pour la vie, elle décourage les femmes. Elle dit « Ne vous mariez pas, gagnez votre vie, soyez indépendante, etc. » Mais elle réalise que, en fait, pour pouvoir voyager, eh bien, il faut pouvoir accéder à un compte en banque, et c'est le seul moyen, un des seuls moyens. Non, c'est pas le compte en banque de Philippe, je précise tout de suite, contrairement à ce qu'on a souvent
voilà,
dit.
Parce qu'on avait un message, et je vous interromps une seconde, mais on avait un message à ce sujet qui disait qu'en fait elle pouvait voyager grâce à son mari fort généreux et que du coup c'était pas du vrai féminisme. Ah ben vous répondez
c'est
à Daniel comme ça.
C'est totalement faux. C'est très important de rétablir la vérité, c'est son argent. Mais pourquoi elle demande tout le temps de l'argent à Philippe dans ses lettres? C'est parce que les femmes, jusqu'en 1965, n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque à leur nom, tout simplement. Donc son argent passait par Philippe, mais elle était fille unique, donc la vérité de ses parents. Elle a toujours travaillé toute sa vie, donc pendant les premières années jusqu'à 35 ans comme cantatrice, et puis après comme journaliste à la Fronde. Ensuite, elle a écrit des livres, même quand elle est en Asie, elle écrit des livres et elle envoie des articles au Mercure de France, donc elle gagne sa vie. Par ailleurs, lorsqu'elle repart en 1937 pour son deuxième voyage en Asie, elle part missionnée par le gouvernement français de l'époque avec une confortable dotation financière pour pouvoir payer son voyage. Donc voilà, c'est pas du tout l'argent de Philippe.
Félicie mais Thibault, bon, vous voyez réagir.
Non, je n'ai rien de plus à dire à ce récit fascinant.
Mais soit on se marie, soit effectivement on a un compte en banque avec le nom de l'homme pour pouvoir justement être libre. En tout cas, Françoise Daubonne, c'est ce qu'elle a fait en se mariant. C'était pour avoir un statut qui lui permettait vraiment de jouir de sa liberté.
Non, c'était un petit peu différent pour Françoise Daubonne. On était pendant la guerre, elle était enceinte. Si elle ne s'était pas mariée, elle prenait un risque d'être stigmatisée très largement. C'était encore autre chose.
Annabelle Crémer-Lecoigne, vous souhaitez réagir?
Oui, en fait, je mesure du coup l'exploit de Maria Sibylla Merian, qui est aussi dans l'ouvrage Femmes de science, parce que voilà une femme qui a divorcé, donc on est quand même en 1690, et elle part au Suriname en 1699, c'est-à-dire une période où aucune femme ne part sans un homme, a priori, donc elle va partir sans homme, avec son argent, avec sa fille, ouais. Et donc c'est assez extraordinaire finalement quand je... Mais par la suite, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Laure Dominique Agnel, les contraintes qui ont pesé, notamment financières, sur les femmes et sociales, sont énormes. Mais elle a su s'en affranchir, donc c'est extraordinaire, en fait, ce personnage de Maria Sibylla Merian à cette époque-là. Déjà, de pouvoir partir en exploration autour du monde à un moment où, finalement, les voyages d'exploration scientifiques, en tout cas, n'intéressaient personne. Et il a fallu attendre un siècle avec von Humboldt, en fait, finalement, pour s'y intéresser. Et elle est pionnière, quoi, dans cette situation. Et c'était une écologue aussi, en fait, une pionnière de l'écologie. Donc...
Laure Dominique Agnel, concernant donc Alexandra David-Nel, vous décrivez vraiment ses voyages, cette liberté, cette facilité aussi à rencontrer toutes les couches de la société où qu'elle aille. Il y a l'exemple de l'Inde, par exemple, qui est extrêmement intéressant. Et puis, il y a la rencontre avec le Dalaï Lama aussi, où elle refuse de s'incliner, hein, c'est ça. On voit aussi cette force de caractère extraordinaire. Hein.
C'est toujours, oui, refuser de se soumettre. Elle ne veut pas se mettre à genoux devant le 13e Dalai Lama qu'elle rencontre au Sikkim. Mais tout de même, au Sikkim, justement, où elle a vécu à 4000 mètres d'altitude dans une grotte pendant 18 mois, à côté de son maître, elle a un maître qui lui enseigne le tantrisme tibétain. Et c'est la seule personne au monde à qui elle a juré d'obéir. Donc voilà, il lui a dit d'ailleurs, si vous voulez que je vous enseigne les secrets du bouddhisme tibétain, vous me devez l'entière obéissance. Et là, elle va accepter. Et pendant 18 mois, elle va vivre pratiquement recluse dans une caverne qu'elle a aménagée quand même confortablement, parce qu'Alexandra tenait à son confort et surtout à son hygiène. Et elle va donc se sentir transformée après ces 18 mois. Mais elle sera expulsée du Sikkim par l'armée britannique des Indes parce qu'elle a osé franchir la frontière tibétaine jusqu'à Shigatse, qui n'est pas très loin de l'autre côté de la frontière indienne. Et elle va errer après pendant très très longtemps à travers l'Asie, le Japon, la Corée, en ayant l'immense nostalgie du Tibet qu'elle a entrevue pendant 2 semaines. Et au bout de 14 années, elle va réussir à traverser, comme vous le savez, le Tibet pendant 4 mois, toute seule avec son lama, qu'elle adoptera par la suite en France, le lama Yongden. Et elle arrivera comme ça à Lhasa en 1924. Ça, c'est une histoire bien connue.
On va écouter juste 30 secondes son retour de Lhasa. On va essayer de bien comprendre ce qu'elle nous raconte avec sa voix extraordinaire.
Quand je suis revenue de Lhasa, on m'avait décerné ce prix, premier prix d'athlétisme féminin. Et j'ai cru qu'on se moquait de moi, j'étais très fâchée. Et puis on m'a dit, mais pas du tout, ils se moquent pas, parce qu'ils ont trouvé que faire des voyages à pied, des milliers et des milliers de kilomètres, dans des conditions pareilles, à travers des montagnes, tout ça. C'était un exploit féminin.
Voilà, exploit féminin, et elle a été célébrée vraiment après partout, dans tous les cercles culturels, célébrée, et puis elle a pris tous les risques. Et ça fait l'objet de cette biographie, Alexandra David-Nel, exploratrice et féministe, que vous signez Laure Dominique Agnel. Merci beaucoup, en tout cas on met les références de tous vos livres, les revues sur le site de La Terre au Carré. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints cet après-midi. À lundi, Camille Cronier, bon week-end. À bientôt.